c'est avec l'arrivée des rebelles que j'ai fui parce qu'ils ont sémé la terreur au sein de la population.
Ils ont commencé à tirer en l'air, ils ont dit Allahu Akbar. Après ça, ils ont dit que où est l'argent? Moi, j'ai dit que je n'ai pas d'argent.
On ne veut pas que la guerre recommence. Nous voulons que ça soit la fin et non le début.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition hebdomadaire de Sahel Plus. Aujourd'hui, au sommaire, mobilisation au Niger pour la libération de leaders de la société civile, drame des migrants en Méditerranée, rencontre avec des survivants.
Le départ était bon, mais on a eu un problème, le bateau a cassé. Mais alhamdoulilah, on a eu les pêcheurs qui nous ont sauvés.
Reportage de Kassim Traoré à suivre. Au Soudan du Sud, les populations souffrent des violents combats et les ONG peinent à leur venir en aide. Enfin, le Cameroun lutte contre les mines antipersonnelles disséminées par Boko Haram et Ebola en Guinée. Malgré les nouveaux cas, la tendance reste à la baisse. Voici tous les sujets que nous allons développer dans Sahel Plus aujourd'hui. Restez avec nous. Inquiétude au Niger, assiste-t-on à un début de dérive autoritaire ? 38 organisations de la société civile réagissent à l'emprisonnement de deux de leurs leaders, Moussa Tchangari et Nuhu Arzika, et appellent à une marche le 2 juin prochain à Niamey pour exiger leur libération. Moussa Tchangari, de l'association Alternative Espace Citoyen, est accusé de complicité avec Boko Haram et Nuhu Arzika, du mouvement pour une citoyenneté responsable, d'atteinte à la défense nationale. Idriss Fall a recueilli la réaction d'Ali Idrissa. Il est coordinateur du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire. Publiez ce que vous payez. Ali Idrissa est signataire de la déclaration de la société civile à Niamey. Nous l'écoutons.
Nous refusons d'accepter que nos camarades gardent prison sous de fallacieux prétextes parce qu'ils n'ont fait que émettre des avis sur des chaînes de radio et de télévision. En matière de délit de presse chez nous, aujourd'hui, c'est dépénalisé pour avoir émis des avis, pour seulement avoir, au cas de Nuhu, exigé à ce que les forces de sécurité soient mises dans les conditions pour pouvoir combattre les terroristes. Nous ne pouvons pas considérer que c'est lui qui va être accusé d'atteinte à la défense nationale. Il n'a fait que appeler à un renforcement du dispositif nigérien de lutte contre Boko Haram.
Moussa Tchangari, que vous connaissez très bien, accusé de coopération avec Boko Haram.
Moussa a fait un rapport tiré de fait sur le terrain. Moussa a été voir des chefs traditionnels de la région de Kifa qui ont été interpellés et il a été pris dans ces conditions pour être accusé lui aussi de complicité avec Boko Haram. Comment comprendre que Moussa, un acteur de la société civile qui lutte depuis tout ce temps pour la démocratie et les droits humains depuis les années 90, puisse être lui se mettre en complicité avec Boko Haram? Pour nous, Moussa n'est pas coupable des faits dont il est accusé. Inch'Allah, la justice nous dira ce qu'il en est. Mais il est très urgent de libérer nos camarades.
Est-ce qu'il y a eu des suites après l'attaque de Boko Haram sur cette île du lac Tchad? On parle d'une centaine de soldats nigériens qui ont été tués.
Ça a été dramatique pour le Niger et le peuple nigérien d'assister à ce carnage que Boko Haram a eu à opérer sur l'île de Karanga. Et nous avions seulement exigé du gouvernement qu'il puisse mettre dans les conditions de pouvoir combattre Boko Haram, nos soldats, en les dotant de tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent arriver à mettre fin à cette maîtrise qui, aujourd'hui, déstabilise toute une région. Aujourd'hui, la région de Tifa, il n'y a aucune activité dans cette région. Tous les commerces sont en faillite. Même les écoles sont fermées. Il y a des centres de santé fermés. Il y a des enseignants qui ont été obligés de fuir cette région. Pour nous, il est urgent qu'on puisse mettre des moyens nécessaires pour pouvoir garantir la sécurité des biens et des personnes. C'est une partie intégrante du territoire nigérien.
Ali Idrissa, coordinateur du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire au Niger.
La Voix de l'Amérique au Niger sur Enfani FM à Niamey, Zinder et Agadez et sur Radio Dalol FM à Dongondouchi.
Au Mali, face au drame des migrants en Méditerranée et au naufrage des embarcations de fortune, le gouvernement malien vient d'adopter une politique axée sur la création d'emplois pour les jeunes dans les zones de départ. Déjà, plusieurs rescapés sont de retour à Bamako après avoir été sauvés, pour la plupart, par des pêcheurs tunisiens. Reportage de notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Si les Européens chassent les passeurs et autres intermédiaires des candidats à l'immigration clandestine, les jeunes ont ouvert une nouvelle porte. À partir de l'Algérie, ils essayent de rentrer par la Tunisie pour gagner l'Europe. Certains rescapés de cette nouvelle aventure sont de retour à Bamako après avoir échoué. Moussa Mariko, dit parisien, rescapé.
Il y a une ville à côté de Tripoli qu'on appelle Zahara. On a décollé là-bas 6h du matin le 24 avril 2015. Bon, 6h, on devait rentrer en Italie, au bout de 7h du temps, ils ont fait embarquement à 6h du matin. 11h après, le soleil était trop tôt et puis ça passait notre zodiac. Oui. Ça a commencé, voilà, ça a pété puis ça a commencé à se dégonfler. Après, maintenant, on a vu les pêcheurs tunisiens et on les a demandé au secours. Puis ils ont venu au secours des gens. Ils nous ont sauvés, dit merci, puis il n'y avait pas de morts.
Ils étaient 90 personnes, 9 nationalités, tous des Africains. Et plus de la moitié étaient des jeunes Maliens. C'est leur bateau qui a écrasé sur la mer vers le côté tunisien. Alors que chacun d'eux avait payé au passeur 1000 euros. Moussa Mariko, dit parisien.
Bon, à peu près 1000 dollars. Mais ça vaut 500 000 francs CFA. Il y en a qui payent ça, bon, il y en a qui ne vaut pas ça. Il y en a aussi plus que ça. Parce oui. que c'est au niveau du temps. Mais lorsque tu discutes avec les coxers, bon, si vous tombez d'accord, n'importe quelle somme, et puis c'est en fonction de ça que vous travaillez. Lorsque tu leur donnes l'argent, quand tu fais premier essai, si ça échoue, tu fais deuxième essai. Si ça échoue, tu fais troisième échec. Voilà, les comptes. Si ça échoue maintenant, c'est fini. Bon, on a fait qu'une seule fois. Là, bon, on ne sait pas s'il va nous rendre.
Amadou Kanté fait partie des rescapés. Pour lui, ils n'ont pas eu de la chance, sans quoi leur départ a été une réussite.
Le départ était bon, mais on a eu un problème, le bateau a cassé. Mais alhamdoulilah, on a eu les pêcheurs qui nous ont sauvés. On a fait comme 2 jours avec ces gens-là. Et ils travaillent après, ils nous ont emmenés en Tunisie. Il y a des gens ici, eux, ils travaillent avec le coxer qui sont là-bas. Le coxer, lui, il est à Tripoli. Mais donc aussi, avant de quitter, tu l'appelles, le transport que tu dois le payer. Donc tu laisses ça ici. En même temps, toi, tu prends le voie d'aller là-bas.
Face à cette situation, le gouvernement malien vient de se doter d'une politique de migration qui s'articule autour de 8 points essentiels, avec en toile de fond la création de l'emploi pour les candidats à l'immigration dans leur zone de départ. Abdramane Sila, ministre des Maliens de l'Extérieur.
Cette volonté politique se traduit par des objectifs ci-dessous. Créer des emplois dans les principales zones d'immigration du pays afin de fixer la population sur leur terroir d'origine. Mieux connaître la réalité des flux migratoires afin de lutter efficacement contre les migrations irrégulières.
Les jeunes de Yélémané ont rejeté la politique de migration du gouvernement. Selon eux, le document proposé par le gouvernement n'est que la réponse de l'Union européenne pour les empêcher d'aller en Europe. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Direction le Soudan du Sud à présent, où les forces rebelles et l'armée gouvernementale s'affrontent depuis un an et demi sur plusieurs fronts le long du Nil Blanc, aux confins des États d'Unité, du Jonglei et du Haut-Nil, situés dans le nord du pays. Cette guerre a éclaté en décembre 2013 lorsque le président sud-soudanais Salva Kiir avait alors accusé son vice-président, devenu chef rebelle Riek Machar, de fomenter un coup d'État. Les Nations Unies se disent profondément inquiètes pour les populations civiles, au moment même où l'aide humanitaire n'arrive plus à être déployée, comme l'affirme l'ONG MSF, Médecins sans frontières. J'ai joint Lucie Le Carpentier, responsable des affaires humanitaires pour MSF à Djouba, au Soudan du Sud. Elle fait un point.
Donc, au cours des dernières semaines, les équipes de Médecins sans frontières, notamment à Benjou, à l'intérieur du site de protection des civils de l'ONU, à l'intérieur duquel on a un hôpital, on a vu arriver plus de 14 000 personnes au cours des dernières semaines, principalement des femmes et des enfants qui fuyaient les combats et la violence. On a vu arriver des familles, des femmes, des enfants épuisés après avoir dû se cacher pendant des jours dans les marécages pour échapper aux combats. On est particulièrement inquiet aussi, notamment, du sort des centaines de milliers de déplacés qui n'ont aucun accès à l'aide humanitaire et médicale.
Des conditions qui sont également très difficiles hein, pour votre personnel et notamment dans des conditions de travail particulièrement dangereuses. Vous pouvez nous raconter un petit peu ce qu'ils vivent ?
Effectivement, ce sont des conditions difficiles. Donc notre personnel local de l'air durant le week-end passé a dû s'enfuir dans les marécages avec certains des patients que MSF traitait au moment même. On est en contact avec eux. On sait qu'ils se sont réfugiés dans les marécages pour échapper à la violence. On est inquiet pour leur sort. Et aussi pour le sort des centaines de milliers de déplacés. Les conditions de travail pour MSF sont également difficiles dans les sites de protection des civils de l'ONU, puisque ces sites n'ont pas été épargnés par l'avalanche. Parfois, il y a eu des combats très, très, très proches de ces sites, et nos équipes ont dû se réfugier pendant plusieurs heures dans des abris, alors même qu'il y avait des tirs d'obus et des échanges de tirs à proximité.
Est-ce que cela veut dire que vous pourriez être obligé d'évacuer si la situation devenait trop dangereuse ?
Nous avons déjà dû quitter l'air. Nous avons déjà dû évacuer notre personnel il y a 2 semaines. Suite à ça, le personnel local s'occupait des patients des MSF, mais ils ont dû fuir à leur tour. Donc il n'y a plus de service de santé pour la population de l'air. On parle de plus de 210 personnes. Évidemment, on appelle l'ensemble des parties au conflit de respecter le personnel humanitaire et médical, à respecter les infrastructures de santé, les hôpitaux, puisqu'on sait que plusieurs hôpitaux, notamment l'hôpital de l'air, l'hôpital de MSF à l'air, ont été la cible de violences aussi, de destruction, de pillage, et ont été brûlés.
C'était Lucie Le Carpentier, responsable des affaires humanitaires pour l'ONG Médecins Sans Frontières. Elle était jointe à Djouba, au Soudan du Sud.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Le Tchad et le Cameroun affirment qu'un grand nombre de mines antipersonnelles ont été posées par des combattants de Boko Haram le long de la frontière camerounaise avec le Nigeria. Il s'agit donc d'un véritable danger à la fois pour les populations mais aussi pour les soldats, sans parler du bétail. Une situation qui a poussé les deux pays à déployer des unités spécialisées de leurs armées respectives afin de détecter et de détruire ces mines. Sur place, à Yaoundé, la correspondance de Moki Edwin Kinzeka, le correspondant de la Voix de l'Amérique anglophone. Son reportage a été traduit et présenté. Et il est présenté ici par Jacques Aristide.
La mission est périlleuse, mais les militaires tchadiens et camerounais ont donc décidé de conjuguer leurs efforts pour l'accomplir. Leur objectif, encercler la forêt de Sambisa, considérée comme l'ultime refuge de Boko Haram. La bataille est donc difficile dans cette zone où de nombreuses mines antipersonnelles ont été détectées. Ce qui fait que pour l'heure, il est encore impossible de complètement sécuriser la partie nord de la frontière du Cameroun avec le Nigeria. Le ministre camerounais de la Défense, Edgar Alain Mebengo.
Son Excellence Idriss Déby Itno a pris la décision pragmatique de venir aux côtés du Cameroun pour conduire cette guerre. Beaucoup a déjà été fait, même si beaucoup reste à faire. À mener cette guerre jusqu'à l'éradication définitive du groupe terroriste Boko Haram.
Mais cet assaut militaire contre la forêt de Sambisa n'est pas nouveau. Le mois dernier, l'armée nigériane a lancé des raids aériens contre cet endroit. Une offensive selon Abuja qui a pu lui permettre de libérer des centaines de personnes détenues en captivité par les insurgés. Toutefois, les militaires nigérians ont également concédé que les mines antipersonnelles ont entravé leur avancée dans cette forêt en vue d'éradiquer les islamistes du groupe armé. Les populations locales ne sont pas non plus à l'abri de ces mines, car beaucoup de villageois en ont été victimes, des mines qui frappent également leur bétail. Les habitants de la région ne se sont donc pas fait prier pour faire part de leur grief à ce sujet au commandant des forces camerounaises contre Boko Haram, le colonel Jacob Kodji.
Il contribue activement dans cette lutte en fournissant les informations utiles aux autorités compétentes.
Depuis ces 2 derniers mois, le Cameroun n'a pas été confronté à des attaques de grande envergure de Boko Haram, à l'image de celles très meurtrières que le groupe a perpétrées par le passé sur le territoire camerounais. Évidemment, Yaoundé demeure éminemment prudent, car d'après des militaires camerounais, les mines antipersonnelles que les islamistes nigérians ont plantées tout autour de leur cachette sont destinées à dissuader les armées du Tchad, du Cameroun et du Nigeria d'avancer dans la forêt de Sambisa, le temps pour les insurgés de se remettre en ordre de bataille.
Rubrique 100. santé pour terminer cette émission et nous allons évoquer une fois de plus le virus Ebola. En Guinée, Ebola a fait de nouvelles victimes à Conakry et à Doubreka, situées à moins de 50 km de la capitale. Toutefois, malgré ces nouveaux foyers dans la zone côtière, les services sanitaires continuent de parler d'une tendance à la baisse. Reportage de notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara.
La campagne de recherche active doit se poursuivre jusqu'au mois de juin, mais elle semble faire des effets car le nombre de personnes contaminées a baissé, confie le coordinateur national de lutte contre Ebola. Pour le docteur Sakoba Keïta, seules quelques localités de la zone côtière restent des cibles dans la lutte contre la maladie.
En Guinée actuellement, la situation épidémiologique a tendance vers la baisse. Malheureusement, on a eu deux cas positifs dans la préfecture de Doubreka. La préfecture de Forêt-Cariaque, qui constituait beaucoup de soucis pour nous, a déjà fait deux jours sans enregistrer de nouveaux cas suite à cette campagne de recherche active qui doit se poursuivre jusqu'à fin juin. Nous sommes en train de rassembler tous nos moyens à Doubreka et à Boké, où nous avons de nouveaux foyers.
De nouveaux foyers dont les malades sont repartis entre les centres de traitement de Conakry et celui de Koya à 50 km de la capitale. Au total, 22 malades sont hospitalisés, 13 cas sont confirmés au virus Ebola et 9 autres sont des suspects qui pourraient sortir des centres de traitement si les résultats d'analyse étaient négatifs, comme ce fut le cas des 1200 guéris d'Ebola depuis le début de l'épidémie. Ces personnes courent-elles des risques pour elles et pour leur famille? Le docteur Sakoba répond.
Pour le moment, on n'a eu personne en Guinée qui a présenté des symptômes secondaires suite à la déclaration de guérison de ces malades. C'est vrai qu'on a eu deux cas d'infection, une à Conakry et une autre à Massanta. Des personnes qu'on suspectait d'être contaminées par des relations sexuelles et non protégées. Vous savez, on a une dame qui est hospitalisée à Kindia, qui a pratiquement son 29e jour. Elle a perdu son enfant suite à Ebola. Mais jusqu'à présent, le virus persiste dans son lait s'il n'a plus de symptômes.
Ebola, enfin et en chiffres, plus de 3500 cas sont enregistrés en Guinée depuis le début et 2700 décès. Conakry, Zakaria Camara pour La Voix de l'Amérique.
C'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation, Elvin Sangano. À la technique, Alfredo Santos. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Rendez-vous mercredi prochain, 18h10, temps universel sur VOA Afrique. Ou d'ici là, sur nos pages Facebook ou Twitter, VOA Salplus. Nous nous quittons en musique avec la Camerounaise Valérie Ekoumé qui sort un nouvel album, Djalé, dont est tiré le titre Mama, qui clôture ce Sahel Plus. Très bonne soirée et très bonne nuit à tous.